phrases creuses à l'appel, à la une des nouvelles, des messages à deux faces, une pour le cash, l'autre pour les flashs, toujours la même cassette, toujours la même cassette, j'ai ça répète. Et la parole s'émiette, des cordes de langue de bois, pour mettre le feu à tous les Judas, toujours la même cassette.
De son album Le 13e étage, Louis-Jean Cormier, la pièce La Cassette.
Et à propos de Louis-Jean Cormier, je vais vous lire l'article de Nathalie Petrovski et aussi celui de Mathieu Boc-Côté, je devrais dire les chroniques de Petrovski et de Boc-Côté. Alors, Nathalie Petrovski, d'abord, dans la presse d'aujourd'hui, la chronique est intitulée « Le mea culpa des mononcles ». Sur quelle planète vit Louis-Jean Cormier? C'est la première question qui m'est venue à l'esprit en lisant ses propos dans nos pages samedi. L'auteur, compositeur, interprète se disait contre la parité homme-femme dans les festivals de musique et peu enclin à engager des techniciennes femmes à cause de leur manque d'expérience. Wow! Venant du gars le plus cool et le plus consensuel de la musique québécoise, celui qui par moments passe même pour un homme rose, les propos étaient non seulement étonnants et détonnants, mais carrément à côté de la plaque. Comment aujourd'hui, en 2018, alors que le combat des femmes pour la parité ne cesse de faire la manchette, et que même les gouvernements reconnaissent le phénomène du sexisme systémique et tentent d'y remédier, comment peut-on être contre la parité sans être un peu contre les femmes? Réalisant très vite que ses propos l'avaient mis en fâcheuse posture, Louis-Jean Cormier s'est empressé de faire son mea culpa sur sa page Facebook. « J'ai beau relire 1000 fois ma réponse à la question. J'ai l'air d'un gros mononcle, débile et arriéré. » Se désolait l'auteur-compositeur-interprète samedi, récoltant immédiatement de la part de ses fidèles une salve d'applaudissements pour sa touchante humilité. « Tous les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas ce gars-là, que je suis pour la parité homme-femme, point, poursuit-il dans le même mea culpa, où il contredit tout ce qu'il a confié à l'enregistreuse de ma collègue José Lapointe. Je repose ma question. Sur quelle planète vit Louis-Jean Cormier? Et s'il vit parmi nous, et non sur Mars, souffre-t-il d'un dédoublement de personnalité qui le pousse à dire une chose et son contraire dans la même journée? D'ailleurs, qui nous dit que Cormier n'a pas commencé par nous livrer le fond de sa pensée? Lorsqu'il a vu l'incendie de la controverse s'embraser et lui échauffer la peau, il a fait marche arrière pour la sauver, sa peau. La question sur la parité qui lui était posée était très claire. Il y a répondu le plus clairement du monde, sans nuance ni équivoque, en défendant le principe de l'art qui transcende tout, y compris le sexe. « Je veux qu'on fasse passer l'art avant le sexe », a-t-il déclaré, sans voir ou reconnaître qu'il faisait l'apologie non pas de l'art, mais du sexisme ordinaire. Vous me direz qu'un gars a le droit de déparler puis de s'en rendre compte et de s'en excuser. Mais c'est quand même un comble qu'il faille encore aujourd'hui en 2018 grimper dans les rideaux pour défendre un principe, la parité, qui devrait aller de soi. Un comble aussi qu'un artiste aussi doué, instruit, sensible et cultivé que Jean-Louis Cormier entretienne même furtivement des clichés sur la liberté de l'art et de la création. Car pour que l'art, dont Louis-Jean vante les splendeurs, soit vraiment libre, encore faudrait-il qu'il soit accessible et que tous et toutes puissent le pratiquer également. C'est loin d'être le cas. Pas depuis hier, depuis que le monde est monde. Selon certains, en art, c'est au mérite et au talent que tout devrait se jouer. Peut-être, mais la meilleure façon de juger le mérite, n'est-ce pas précisément par la parité? Le jour où les hommes et les femmes auront un égal temps d'antenne et un égal temps sur glace, le jour où ils auront accès au même budget, où ils occuperont autant de place sur l'affiche, au menu des festivals ou sur les palmarès, nous pourrons enfin les juger au mérite. Pour l'instant, si la moitié de l'humanité est une femme, alors cette moitié n'a d'autre mérite que d'accepter de poireauter en coulisses en attendant son tour. Il y a à peine une semaine, le directeur artistique des Grands Ballets y allait lui aussi d'un retentissant mea culpa devant les protestations du milieu de la danse, lui reprochant d'avoir engagé 3 chorégraphes masculins pour un projet intitulé « Femmes ». Il y a une semaine, je me demandais comment cet homme, cet artiste, pouvait être aussi insensible à l'époque et à la quête des femmes et des créatrices qui ne demandent qu'à prendre leur place. Je viens de comprendre qu'il n'est pas seul au royaume des mononcles et que nous n'en avons pas fini avec leur mea culpa, plus ou moins sincère. Et dans la section Opinion, la chronique de Mathieu Bock-Côté, les excuses de Louis-Jean Cormier. Samedi, la presse publiait un entretien avec Louis-Jean Cormier, un des grands de la chanson québécoise. On lui demandait notamment s'il était favorable à la parité homme-femme dans les festivals de musique. Sa réponse était de simple bon sens. Non. En musique, comme dans les autres domaines de l'existence, on ne sélectionne pas les gens selon leur sexe, mais selon leur talent. Si dans un festival, il y a une majorité d'hommes, qu'il en soit ainsi. S'il y a une majorité de femmes, qu'il en soit ainsi aussi. Mais sa réponse a provoqué un scandale sur les médias sociaux. Des féministes radicales se sont indignées. Apparemment qu'il n'est plus possible de douter des vertus de la parité. C'est un péché idéologique et celui qui le commet doit s'en repentir. C'est ce qu'a fait Cormier en se fendant d'une piteuse déclaration sur Facebook où il s'est livré à une délirante autocritique. Tout y était. Il s'accuse en reprenant le vocabulaire de l'antiracisme haineux et du féminisme radical, deux idéologies médiatiquement dominantes. « Je suis un homme blanc, hétérosexuel. Ouh là là, c'est mal ça !» Il en rajoute en se qualifiant de gros mononcle débile et arriéré. Et il promet de s'amender en écoutant désormais le catéchisme officiel sur le sexisme systémique. Il répétera sa leçon à la manière d'un pénitent désirant ardemment son pardon. Il était si abattu qu'on aurait eu envie de lui prêter une colonne vertébrale. Louis-Jean Cormier s'est peut-être dit qu'il n'avait pas le choix. Peut-être était-il effrayé à l'idée de ne pas avoir l'air de gauche à chaque moment de son existence. Peut-être s'est-il dit qu'il ne peut pas faire carrière dans son milieu sans se soumettre aux dogmes féministes du moment. Cela confirme une chose. Un certain féminisme radical, aussi pénible que sermonneur, patrouille dans l'espace public à la manière d'une police idéologique. Un tournage dépaysant. Anne Dorval et le cinéaste Jean-Philippe Duval ont passé près de 2 mois au Vietnam cet hiver pour le tournage du film 14 jours, 12 nuits. L'actrice Anne Dorval a dû sortir de sa zone de confort pour aller tourner pendant plusieurs semaines au Vietnam le film québécois 14 jours, 12 nuits dont elle tient le rôle principal. Dépaysant, c'est le mot qui sort le plus souvent de la bouche du cinéaste Jean-Philippe Duval, qui a réalisé Dédé à travers les brumes et qui réalise aussi la télésérie Unité 9, quand celui-ci raconte sa récente expérience de tournage au Vietnam. Duval a passé les mois de janvier et de février au Vietnam pour tourner son nouveau long-métrage avec plusieurs complices, dont l'actrice Anne Dorval, à qui il a confié le personnage principal de son film. Ce n'est jamais simple d'aller tourner à l'étranger, mais dans ce cas-ci, c'était particulièrement complexe parce que le film raconte un road trip à travers le Vietnam, explique Jean-Philippe Duval, qui est de retour au Québec depuis 2 semaines. On était vraiment dans l'inconnu. On a travaillé sur place avec des techniciens vietnamiens et thaïlandais, et ça parlait français, anglais, vietnamien et thaïlandais sur le plateau. J'avais une interprète avec moi qui traduisait ce que je disais aux acteurs vietnamiens, mais il fallait toujours s'adapter à une réalité, à une culture qu'on ne connaît pas. Pendant le tournage de son film, Jean-Philippe Duval dit avoir été soufflé par le talent d'Anne Dorval. « Je ne suis pas le seul à le dire, mais c'est une actrice incroyable. Elle est généreuse, disponible, à l'écoute. C'est fou tout ce qu'elle est capable de faire. On a vu récemment dans Le Bye-Bye à quel point elle peut être hilarante, mais dans mon film, elle joue dans la retenue et elle est bouleversante. »
Faut ressortir la bête, faut ressortir la bête, faut
la pop infectueuse d'Alpha Rococo, leur plus récent extrait Incendie, tiré de leur album L'amour et le chaos.
Dans la section pause de la presse d'aujourd'hui, prescription yoga. Pour soulager la douleur, l'insomnie, l'inconfort de certains traitements ou encore la dépression, plusieurs médecins suggèrent maintenant à leurs patients la pratique du yoga. De plus en plus d'études tendent d'ailleurs à leur donner raison. Le yoga devient ainsi un outil supplémentaire à condition qu'il soit adapté. Un dossier d'Isabelle Audette, de Catherine Henfield et de Marie Allard. Soulager la douleur, Isabelle Audette. Est-ce que ça va? Annie Courtecuisse, professeure de yoga, aborde avec une compassion une femme qui entre dans le local où elle s'apprête à donner un cours. « Oh, pas vraiment », lui souffle la dame, le visage crispé par la douleur, avant d'aller s'asseoir sur une des chaises, la main contre le dos. « Vous irez doucement aujourd'hui pendant la salutation au soleil levant, d'accord ?» indique la professeure qui travaille depuis 2012 auprès de patients souffrant de douleurs chroniques. Lorsque le cours commence, elle ajoute ces quelques mots à l'intention de tout le groupe. Laissez de l'autre côté de la porte tout ce qui s'est passé avant et idéalement, ne pensez pas à ce qui se passera après. L'appel d'Annie est entendu. Les femmes se défendent et imitent les mouvements qu'elle amorce doucement. Joanne Jean connaît si bien les enchaînements qu'elle les exécute les yeux fermés dans une détente qui semble totale. Les gens me demandent comment ça se fait que ça ne paraît pas que j'ai mal, nous confie-t-elle plus tard. Je souffre de fibromyalgie et j'ai mal partout. Mais la différence, c'est que le yoga m'aide en me rendant plus relaxe. Ça m'aide à accepter la douleur aussi. Joanne a commencé la pratique du yoga à la suggestion du docteur David Lucier, directeur de la clinique de gestion de la douleur chronique à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Lorsqu'on s'arrête à son bureau pour discuter des effets du yoga, le médecin s'anime. Il constate une amélioration de l'état de plusieurs de ses patients, tant et si bien que l'Institut de gériatrie offre ce service gratuitement à une partie de sa clientèle grâce à des dons et à l'implication d'Annie Courtecuisse. Ce sont essentiellement des femmes qui en profitent, mais les bienfaits peuvent toucher tout autant les hommes. On s'est rendu compte que ça aide beaucoup les gens. Ça donne un sentiment de contrôle aux patients. Ils font quelque chose pour améliorer la douleur et ça, c'est important. C'est le facteur principal d'un bon pronostic pour que la douleur s'améliore, le docteur David Lucier qui affirme cela. L'expérience est si concluante à l'Institut de gériatrie que la direction de la clinique antidouleur du Centre hospitalier universitaire de Montréal a décidé d'ajouter à son tour ce même service aux soins offerts à sa clientèle en 2014. Il y a un avantage certain pour une certaine population qui est limitée dans ses capacités fonctionnelles, ajoute la docteure Aline Boulanger, directrice de la clinique antidouleur du CHUM. Le yoga avec les différents mouvements implique un volet d'équilibre et de souplesse important. Et puis, c'est bénéfique parce que c'est fait tout en douceur. Le milieu hospitalier s'ouvre donc à la pratique du yoga. N'empêche, on ne s'improvise pas professeur de yoga auprès d'une clientèle souffrant d'un problème de santé du jour au lendemain. Il y a un gros travail à faire pour aussi proposer un type de yoga adapté, explique Annie Courtecuisse, qui fait d'ailleurs partager son expertise à d'autres professeurs. On doit s'adapter constamment aux personnes dans nos cours. On n'arrive pas en disant « Tiens, je vais faire une classe comme ci ou comme ça ». Non, c'est une approche d'accompagnement, de compassion, d'écoute. Voilà pourquoi elle a choisi d'offrir du yoga sur chaise aux patients souffrant de douleurs chroniques. Elle a aussi écrit un livre pour les guider lorsqu'ils souhaitent pratiquer le même type de yoga à la maison. On adapte les postures sur la chaise pour qu'elles soient sécuritaires et adaptées aux pathologies de chaque personne. Même sur un groupe de 5 ou 6, il n'y en a pas 2 qui souffrent de la même chose. On fait des postures adaptées sur la chaise, mais c'est toujours du vrai yoga, assure la professeure. Pendant le cours auquel nous assistons, elle s'enquiert d'ailleurs régulièrement de l'état des participantes. Accueillez les sensations sans les cacher. Écoutez votre corps, précise Annie Courtecuisse à quelques occasions. Les participantes enchaînent ainsi à leur façon des postures comme la salutation au soleil levant et le guerrier. Médecin de famille en Montérégie, le docteur Éric Sauvageau est lui aussi convaincu des bienfaits du yoga chez des patients de tous âges. Il a d'ailleurs compris quels en étaient les avantages en le pratiquant lui-même depuis 2014. Je commençais à être surchargé par mon travail et je cherchais un moyen d'apaiser mon esprit et d'apaiser mon corps de toutes les tensions musculaires. Ma conjointe faisait une formation pour être professeur de yoga et j'ai compris que c'était plus qu'une activité physique. Ça touche plusieurs dimensions de l'être humain. Depuis, il a suivi une formation pour être professeur de yoga. Lorsque cela s'applique, il lui arrive de suggérer la pratique de cette activité ou encore certaines postures à ses patients. Je donne souvent l'exemple où j'ai un coffre à pêche avec un étage de plus que la plupart de mes collègues, explique le médecin qui constate un réel intérêt chez les autres médecins. Il y a par exemple des étirements pour des maux de dos à faire régulièrement, ou encore pour ceux qui font de l'insomnie, il y a des exercices de relaxation pour s'apaiser avant d'aller se coucher. Le yoga apporte aussi un côté plus méditatif pour aider à la gestion de l'anxiété, de la dépression, du stress finalement. Le docteur Sauvageau précise du même souffle que le yoga n'est pas une panacée. Ça ne va pas nécessairement guérir la maladie, mais ça va aider les gens à mieux vivre avec, précise-t-il. C'est en effet ce que croit Annie Courtecuisse. Quand les patients arrivent, certains ne sont que la douleur. Le yoga peut les reconnecter avec eux-mêmes. Ils retrouvent cette force qu'ils ont toujours au fond d'eux-mêmes. C'est là qu'on a des résultats. Quand ils sont avec eux-mêmes, avec leur corps dont ils ne voulaient plus entendre parler. Alors, il y a un autre texte, le yoga contre le cancer, aussi un yoga immobile pour relaxer, et ce qu'en dit la science. Alors, ce qu'en dit la science? Un peu partout dans le monde, plusieurs études sérieuses ont indiqué au cours des dernières années que la pratique du yoga avait des effets positifs à court et à moyen terme sur des patients. Le soulagement des maux de dos et des traitements contre le cancer a tout particulièrement été documenté. Au Québec, la psychologue Dominique Langteau s'est d'ailleurs penchée précisément sur la qualité de vie de 100 femmes atteintes d'un cancer du sein dans une étude de doctorat en psychologie menée à l'Université du Québec à Montréal. Elle a détaillé les effets d'une approche de 8 semaines développée par le maître yoga Madan Bali. Appuyée par plusieurs professionnels de la santé, la psychologue a souligné que ce programme avait amélioré la qualité de vie des patientes, mais aussi prévenu l'augmentation de symptômes dépressifs. C'est un complément aux traitements médicaux auxquels je crois beaucoup, indique la psychologue. Tu as des outils pour diminuer ton anxiété et être dans le moment présent. Tu peux trouver des moments de bonheur même à travers cette épreuve, explique Dominique Langteau. Elle sait d'ailleurs de quoi elle parle. En 1989, elle a elle-même souffert d'un cancer du sein. C'est à ce moment qu'elle s'est tournée vers le yoga. Puis, au moment de soutenir sa thèse en 2012, elle a vécu une récidive dans le même sein. Mieux outillée, elle ajoute toutefois avoir mieux vécu les traitements la deuxième fois. Ça prendra plus d'études, évidemment, mais c'est très prometteur. Pour rendre hommage à la grande amoureuse de la musique que fut Jacqueline Desmarais, morte le 3 mars dernier, le Conservatoire de musique de Montréal présentera un concert du grand orchestre à cordes dirigé par Denis Brotte. Le violoncelliste Stéphane Tétrault, qui était un protégé de Madame Desmarais, sera le soliste invité. Sur 4 des pièces jouées, il interprétera l'Andante Cantabile pour violoncelle opus 11 de Tchaïkovski, ainsi que le concerto en sol mineur RV531 de Vivaldi avec Denis Brotte, qui est aussi violoncelliste. Le concert aura lieu le samedi 24 mars à 19h30 et le dimanche 25 mars à 15h. Voilà, ça complète le quotidien des quotidiens du mardi 13 mars 2018. Ici Hélène Denis qui vous remercie d'avoir été à l'écoute. Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical. Et je vous invite à rester là. Si vous nous écoutez en direct, les paractualités suivent dans quelques minutes. J'aurai le plaisir de recevoir Vincent Guillaume Otis, comédien. porte-parole de la Semaine québécoise pour la déficience intellectuelle depuis 2011, et aussi Lucie Robida, directrice du développement des services adaptés de Vues et Voix, collègue de travail, qui viendra nous parler d'une première conférence de Vues et Voix qui va se tenir à Montréal le 22 mars. À tout de suite!